On va faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie.
C'est très inquiétant pour la situation du français au Québec, au Canada également.
Bonjour tout le monde, bonne fin de journée. C'est demain que la fonderie Horn va dévoiler son plan d'action pour réduire ses émissions atmosphériques. Mais force est de constater que ce n'est visiblement pas seulement la fonderie Horn à Rouyn-Noranda qui a eu une autorisation du gouvernement pour déroger aux lois en vigueur en lien avec des émissions. Il y a de nombreuses entreprises qui polluent allègrement partout dans la province, et ce, avec l'aval du gouvernement du Québec. 89. C'est le nombre d'entreprises qui peuvent polluer au-delà des normes provinciales. Et il y en a plusieurs qui se retrouvent même dans des grands centres urbains comme Montréal, Trois-Rivières et aussi Gatineau. Je vais aller en parler avec la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, qui est médecin spécialiste en environnement. Bonjour, Claudelle.
Salut, Sabrina.
Donc, d'abord, est-ce que ça te surprend, cette nouvelle-là?
Bien, ça me surprend par le nombre. C'est beaucoup, ouais, c'est 89, élevé, hein? C'est beaucoup d'entreprises qui, depuis des années, se sont vus octroyer le droit de polluer, surtout après avoir fait des demandes auprès du gouvernement, le droit de ne pas respecter les normes qu'on se fixe pour l'ensemble de la province. Le chiffre est certainement impressionnant.
Oui, et là, il y a plus tôt cet après-midi, voilà, le ministre Benoît Charrette avait annoncé que maintenant, il y aura automatiquement une consultation publique quand une attestation d'assainissement sera renouvelée. Est-ce que ça reste que c'est un pas vers la bonne direction?
Bien, je vois mal dans quel contexte la population va être d'accord avec le fait de respirer un air qui est plus pollué, ouais, parce qu'une entreprise désire le faire. Donc, j'ai hâte de voir à quel point les préoccupations citoyennes vont être entendues adéquatement et intégrées dans les décisions. Ça reste à voir. Le cas de la fonderie Horn va peut-être nous donner un avant-goût. Là, on annonçait une consultation publique pour l'automne, mm-hmm, mais ça reste néanmoins qu'il y a des processus décisionnels où on établit des normes de validité scientifique en disant que ces normes-là permettent une protection de la santé et des écosystèmes. Et là, il y a un lobby d'entreprises. En fait, les entreprises font pression auprès du gouvernement pour déroger de ce droit-là, mais ça reste que toute dérogation à des normes environnementales, mm-hmm, comporte des risques qui sont non négligeables pour la santé. J'espère qu'en fait, les préoccupations citoyennes vont être entendues comme elles se doivent.
Exactement. Lors de ces consultations publiques qui auront lieu du 6 septembre au 20 octobre prochain. Mais là, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, Fonderie Horn, on a vu qu'il y avait différents types de cancers qui étaient un petit peu plus fréquents dans cette région, donc de Rouyn-Noranda. Là, est-ce que dans d'autres, par exemple, je parlais qu'il y avait des usines où il y a des émissions plus fortes, par exemple, à Montréal, également à Trois-Rivières. Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, des types de cancers apparaître ou qu'il y a des maladies qui soient plus fréquentes à ces endroits-là en raison de la pollution?
C'est possible. En fait, tout dépend de la substance toxique qui est dans l'air à quelle concentration. Dépendamment du type de substance, il y a différents effets pour la santé. Puis chaque substance a des effets différemment de la quantité là, à laquelle on est exposé. Donc même, par exemple, pour l'arsenic, à des seuils très faibles, il y a un risque de cancer pulmonaire. Mm-hmm. À des seuils moyens, on a des risques sur la santé neurodéveloppementale des enfants. C'est un peu le même jeu là, pour l'ensemble des polluants. Donc, c'est difficile à dire. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser chaque situation. Ce qui en reste néanmoins, c'est que la pollution atmosphérique, qu'elle soit composée d'une pollution un peu plus standard comme on retrouve dans les villes, qu'il y ait des métaux lourds, il y a des conséquences sur la santé. Ça demande une caractérisation des risques là, qui est faite de façon approfondie.
Et juste peut-être en quelques secondes, à la maison, est-ce qu'on peut faire des tests pour savoir si notre environnement est pollué?
C'est difficile. Il y a des tests qui existent là, pour c'est le ça. Tester à la maison, mais je pense que la question importante, c'est clair qu'on respire à l'extérieur, soit sain. Et ça passe par un contrôle beaucoup plus rigoureux là, au niveau gouvernemental.
Tout à fait. Merci beaucoup encore une fois, Claudelle, d'avoir été avec nous ce soir.
Avec plaisir. Bonne soirée.
On en parle depuis déjà des années que le système de santé au Québec a besoin d'une solide refonte. Eh bien là, la Coalition Avenir Québec est allée avec une nouvelle annonce en vue des prochaines élections provinciales. Créer l'Agence Santé Québec. C'est quoi ça? On va en parler avec Simon Bourassa, qu'on retrouve sur la colline parlementaire. Salut, Simon.
Salut, Sabrina.
Donc, en quoi ces changements organisationnels que propose la CAQ viendraient en fait améliorer là, le système de santé?
Bien, c'est ce qu'a tenté de nous expliquer le ministre Christian Dubé un peu plus tôt aujourd'hui. La création de cette agence Santé Québec, ça vient d'abord séparer deux choses. Les orientations, donc l'aspect un peu plus politique du système de santé, des opérations, donc les soins, les services, ce qui se passe dans les groupes de médecine familiaux, puis les hôpitaux, bref, le concret. Présentement, c'est le ministre, puis ses sous-ministres adjoints qui gèrent un peu tout ça. Vous allez voir sur les deux graphiques, le avant et le après, ce que propose la coalition Avenir Québec en créant l'agence, bien, c'est ça. Ça viendrait, entre autres, alléger la tâche des sous-ministres, mais surtout permettre à ceux qui gèrent les opérations, donc le vrai travail de soins sur le terrain, de savoir vers qui se tourner pour opérer des changements. Parce que le ministère de la Santé, c'est un énorme paquebot qui est dur à faire tourner sur lui-même. Donc, en créant cette structure-là, on viendrait, si on veut, faciliter ou simplifier les choses. Le ministre qui a quand même eu du mal à nous expliquer comment on pourrait alléger la bureaucratie au ministère de la Santé en créant une nouvelle structure, surtout que la structure actuelle qui découle de la dernière réforme Barrette avec les CIS et les CIUS, on n'y touche pas. Pas de changement structurel concret, là, presque. Le patient, bref, il verra que du feu. Ça se passe vraiment de manière plus administrative. Christian Dubé.
99 % des Québécois veulent pas entendre parler de ces changements-là, veulent pas les voir. Mais ce que je vous dis, ce qu'ils nous demandent, c'est d'être aussi efficace qu'on l'était dans la vaccination pour toutes ces opérations-là qui sont 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça, là, cette organisation-là de travail que je vous présente, c'est les meilleures pratiques pour une équipe qui gère 330 000 employés puis qui veut servir 8 millions de patients de façon organisée.
Et qu'est-ce que les professionnels de la santé pensent de cette idée-là?
J'en ai parlé avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Pour lui, l'important, c'est d'avoir un peu moins de politique dans le réseau de la santé. Il se demande encore comment cette nouvelle structure va venir améliorer surtout les soins de première ligne.
Dans les dernières années, les ministres ont parfois eu la fâcheuse habitude d'intervenir sur des considérations seulement politiques. Donc ça, on souhaite que ça soit dépolitisé. Et je ne crois pas que cette structure-là mise en place dépolitise. L'autre élément, il faut que l'organisation et l'opérationnel, ça ne soit pas à Québec. Il faut que ça soit décentralisé dans les régions.
Il faudra passer par un projet de loi si ça se concrétise là, pour opérer ces changements. Deuxième engagement électoral de la CAQ après un premier en logement social la semaine dernière, en route vers la campagne.
Et c'est ça, campagne qui n'est même pas encore commencée, imagine. Merci beaucoup, Simon.
Salut.
À l'aube de la rentrée scolaire, eh bien, le gouvernement du Québec engage un négociateur pour parler aux transporteurs scolaires alors que le conflit perdure. Maître Claude Sauvageau devra trouver un accord commun lors d'un sprint de négociation. Les conducteurs de véhicules scolaires réclament une hausse de 7 000 par circuit à leur salaire. Et plusieurs transporteurs sont sans contrat de travail. Reste donc à voir si un accord sera convenu à temps pour que les élèves puissent se rendre à l'école en autobus. Et après sa fermeture en avril dernier, eh bien, le centre de vaccination situé dans le Stade olympique de Montréal a repris du service aujourd'hui, donc mercredi. Pour sa première semaine d'activité, la clinique vise particulièrement les aînés de plus de 75 ans. Au moment de la visite des installations, seulement 200 rendez-vous avaient trouvé preneur pour la journée.
Après sa fermeture en avril, c'est ce mercredi 17 août que rouvre la clinique de vaccination du Stade olympique. À l'aube d'une potentielle 8e vague, on est allé voir comment ça se passait.
Donc, de ce côté-ci, on a l'ensemble des zones de vaccination. On s'est éclipsé durant l'été, vu l'achalandage qui était moindre. On s'est dirigé vers nos CLSC, où la vaccination est toujours en cours et disponible pour nos tout-petits, entre autres. Et ici, on réouvre pour la dose de rappel pour les 75 ans et plus cette semaine, 60 ans et plus la semaine prochaine et 18 ans et plus la semaine suivante.
C'est relativement tranquille quand même ce matin?
Bien, hier, post-conférence de presse, on a eu une centaine d'inscriptions dans la première heure. Aujourd'hui, c'est 200 vaccins qu'on administre.
OK.
En 75 ans.
Sur une possibilité de?
Aujourd'hui, on avait une capacité de 800.
OK.
Donc, on a de la place pour accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour qui sont attendues sur ce site-là. Présentement, certains ont eu la COVID, donc ne sont pas éligibles nécessairement parce qu'il y a un délai de 3 mois entre la maladie et la dose. Tout le monde n'a pas eu sa dernière dose de rappel au même moment. Donc, ce qui nous permet d'étaler l'achalandage sur plus de semaines. C'est pour ça non plus qu'on ne s'attend pas à des foules tout en même temps, à des grosses lignées de gens qui attendent devant nos murs pour venir se faire vacciner, puisque la prise de rendez-vous se fait progressivement.
Avec l'âge que j'ai, là, je ne prends pas de chance non plus. Là.
Même si je ne suis pas très habile avec Internet, j'ai trouvé la date, je me suis inscrit. 9h le matin, c'est fait.
Efficace.
Efficace, simple. Puis là, il y a beaucoup de place, là.
J'ai pas plus de chance, ça. Puis en plus, je voulais éviter la cohue de fin août. Peut-être qu'il va y avoir une vaccination massive en fin août, là.
Les vaccinateurs commandent, puis ça apparaît. Comme chez McDo. Ça apparaît ce qu'il y a à produire. Et là, eux se mettent en action pour être sûrs de livrer le plus rapidement vers le citoyen.
Puis avez-vous toujours le nombre de doses dont vous avez besoin de chacun des vaccins?
Oui. Oui, ça, il manque pas. À cette campagne-ci, il ne manquera pas de doses. Durant l'été, on a pu stocker ce qu'il fallait. Pour l'instant, pour l'achalandage actuel que vous voyez, on a quand même les bras qu'il nous faut. Pour l'instant, c'est les gens qu'on a conservés dans nos rangs à travers l'été. On a rappelé nos retraités qui étaient intéressés à se joindre. On va s'ajuster à travers l'achalandage, donc on pourra être appelé à ressolliciter les gens qui veulent venir rejoindre nos rangs pour la vaccination à certains moments, tout à fait.
La langue française continue son déclin au Québec et au Canada. C'est ce que démontrent à tout le moins les nouvelles données du recensement publié aujourd'hui par Statistique Canada. Le pourcentage de Québécois qui parlent le français à la maison est passé de 79 % à 77,5 % donc de 2016 à 2021. Et il y a une baisse plus marquée dans la grande région de Montréal, bon, notamment dans la métropole, à Laval, mais aussi en Outaouais, ce qui a fait réagir le ministre de la langue française, Simon-Jolin Barrette.
Ces chiffres-là, est-ce que c'est la preuve que le Québec risque de devenir la prochaine Louisiane, comme le craignait M. Legault pour le coup?
Ces chiffres-là démontrent très clairement que le projet de loi, la loi 96, était nécessaire pour inverser les tendances. On se retrouve à la croisée des chemins et j'espère que les oppositions, aujourd'hui, là, réalisent le péril du français pour les prochaines années.
J'en parle avec Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, le français comme première langue officielle parlée a diminué dans toutes les régions du Québec, là, sauf en Gaspésie. Est-ce que vous trouvez que c'est inquiétant?
Bien sûr. Et ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme au mouvement Québec français. Vous savez, on targue souvent d'être justement des alarmistes. En réalité, on est des réalistes. Et ce à quoi on assiste, eh bien, correspond à qu'on annonçait depuis un certain temps déjà, hélas.
Bien oui. Puis selon vous, qu'est-ce qui explique cette tendance à la baisse au cours des dernières années?
Bien, ce qui explique ce recul au premier chef, disons-le, c'est la médiocrité et le manque de courage de nos dirigeants politiques qui, depuis trop longtemps, font mine d'agir sérieusement pour l'avenir de la langue et qui ont beau parfois se gargariser de discours là, pseudo-patriotiques, mais qui échouent en réalité à freiner l'anglicisation en cours. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est essentiellement un énième symptôme de cet échec avec les conséquences cruelles que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on assiste en direct à l'effacement du fait français au Canada anglais et pour ce qui est du Québec, à la minorisation du français dans l'île de Montréal.
Tout à fait. Mais actuellement, quand même, le gouvernement provincial a remanié, en fait, la loi 101 avec la nouvelle loi 96. Il y a quand même eu un revers devant les tribunaux au cours des derniers jours. Mais pour vous, est-ce que ça va être assez, cette loi 96-là?
Non, ce ne le sera pas. Et ce n'est pas seulement à mes yeux, c'est aussi aux yeux des plus sérieux experts qui se sont penchés sur la question. Alors, l'objectif minimal consiste à freiner, vous savez, la régression de la vitalité du français. La loi 96 n'y parviendra pas. Il faut rétablir la loi 101 originelle ou bien faire l'indépendance du Québec.
Effectivement, pour la première fois, les anglophones ont franchi le cap du million au Québec. Ça aussi, est-ce que c'est une donnée qui vous surprend en quelques secondes?
Bien, c'est-à-dire que pendant longtemps, on attribuait le déclin du français à la croissance du nombre d'allophones. Eh bien là, on assiste à une croissance de l'anglais, langue parlée à la maison, et une décroissance du français. Donc, on parle vraiment d'une anglicisation directe, voilà.
Tout à fait, on entend beaucoup le bonjour aïe aussi. Merci beaucoup, M. Laporte, d'avoir été avec nous ce soir.
Je vous en prie, je vous en prie.
Imaginez avoir un véritable chantier de construction au pas de votre porte et ce pendant plus d'un an et demi. Eh bien, c'est la réalité de dizaines de commerçants de Schlaga Maisonneuve pour qui les travaux de revitalisation de la rue Sainte-Catherine-Est causent son lot de désagréments. Alors, s'ils sont en faveur du projet, ils estiment qu'une meilleure planification aurait permis de diminuer ses impacts sur l'économie locale. Louis-Philippe Bourdeau est allé à leur rencontre.
On est présentement sur la rue Sainte-Catherine-Est dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Vous le voyez, ici, il y a des travaux majeurs qui sont en cours depuis l'été dernier. Ça devrait se terminer en théorie à l'automne prochain. Mais depuis quelques semaines, les commerçants commencent vraiment à manquer de patience parce que l'accessibilité au commerce est de plus en plus restreinte et les compensations financières, bien, sont limitées.
Je vous dirais que depuis deux mois, l'accès est totalement impossible pour les clients. Les véhicules ne peuvent pas venir sur la rue Sainte-Catherine. C'est barré d'un côté à l'autre.
Et vous-même, vous avez déjà eu la difficulté à avoir accès à votre propre commerce?
Oui. On devait passer par de ces clôtures pour avoir accès, pour pouvoir ouvrir la cuisine à l'arrière. Je ne blâme pas les travailleurs, c'est l'organisation. Au lieu de faire un tronçon à la fois puis de laisser un accès direct, c'est totalement barré de part et d'autre.
C'est un peu comme un labyrinthe pour se rendre. Donc, il y en a qui se découragent, même ceux qui ne sont pas très loin. Évidemment, le chiffre d'affaires, il descend beaucoup. On ne vous donne pas de salaire pendant des mois pour être capable de pallier, en fait, le manque. Dans le fond, c'est de tenir le fort le plus longtemps possible pour être capable d'être encore là une fois que les travaux vont être terminés. T'sais.
Pourquoi on a décidé de ne pas faire ça en section, mais de le faire en continu?
En fait, c'est des difficultés d'approvisionnement pour certains matériaux qui font en sorte qu'on a changé notre stratégie. Au départ, court tronçon. On a maintenant demandé à l'entrepreneur de travailler sur un tronçon plus long. Pourquoi? Pour rattraper le retard.
Est-ce que vous vous attendez à des compensations financières pour les pertes que vous avez subies par les travaux?
On a fait des demandes. On a appelé, nous, en juin, pour savoir s'ils avaient reçu la demande. Ce qu'on a comme réponse, c'est attendez d'avoir des nouvelles. Attendez.
D'avoir eu un break, admettons, de taxes, je ne sais pas, sur deux ans, ça aurait pu combler une mini-perte, si tu veux, financière.
C'est fermé. On n'a rien, à vendre, rien à offrir à nos clients.
Il y a une subvention disponible qui peut aller jusqu'à 40 000 $ par commerce.
Mais 40 000, quand on parle de centaines de milliers de dollars là, en perte pour plusieurs commerces, 40 000, c'est même pas le salaire d'un employé un an. Là.
Écoutez, c'est l'enveloppe qui est disponible via le programme de la Ville de Montréal. Mais par ailleurs, il y a également tout le soutien qui va être accordé par le service du développement économique.
Il y a des commerçants du secteur qui tentent maintenant de se regrouper pour faire front commun auprès de la Ville et tenter surtout de trouver des solutions.
Il y avait Tania Zlovassi, il y avait moi. Mais l'objectif aussi, c'est de connaître un petit peu la réalité de chacun, vraiment de se parler, de voir c'est quoi les conséquences que chacun vit. C'est sûr qu'un recours collectif, ça demande énormément d'énergie, de temps, d'argent, et ça peut être très long. Si aussi il faut se rendre jusque-là, on perd tout à ne pas essayer.
La Caisse de dépôt et placement du Québec a perdu 30 milliards de dollars d'actifs dans les six premiers mois de 2022. La CDPQ a livré un rendement négatif de 7,9. C'est un recul qui s'explique notamment par la hausse des taux d'intérêt et la correction des marchés boursiers et obligatoires. Alors au moins, le portefeuille global de la CDPQ continue de faire mieux que son portefeuille de référence. Les citoyens de Trois-Rivières n'auront plus à se rendre à Montréal ou même à Québec pour leur passeport parce qu'il y a un bureau de passeport qui vient d'ouvrir dans leur ville. Avec l'implantation de ce nouveau bureau, bien, Ottawa veut éviter de revivre une crise comme au début de l'été. Ma collègue Amélie Saint-Thier va assister à l'annonce du gouvernement.
Trois-Rivières porte à 8 le nombre de centres où il est possible désormais de récupérer son passeport en main propre au Québec. Trois-Rivières est la seule municipalité en province à être concernée par l'annonce d'aujourd'hui. Autrement, on parle de Sault-Sainte-Marie en Ontario, de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard et à Red Deer en Alberta, mais il y a quand même d'autres annonces à venir.
Nous avons fait une analyse de son ville au cours du pays pour voir où on n'a plus besoin de ces services. Ça, c'est la première annonce de j'espère encore plus. Nous sommes en train de préparer à peu près 9 ou 10 villes de plus.
C'est clair que la ministre Karine Agoul ne veut pas voir de situation chaotique comme ce qu'on a vu en juin quand les gens attendaient de nombreuses heures leurs documents se répéter quand ce sera le temps des fêtes.
On a vu une augmentation énorme dans le courriel, les applications de courriel, et c'est là où nous avons la réalité. Alors, c'est là maintenant où nous sommes en train d'améliorer le service dans le courriel. Mais maintenant, dans les bureaux de passeport, la situation est complètement différente que c'était au fin de juin.
Évidemment, à Trois-Rivières, on ne se plaindra pas de ne pas avoir à faire la route entre Montréal ou encore Québec. Mais on est quand même soucieux, je dirais, de savoir que des gens pourraient décider de partir de Repentigny, de Portneuf, de Donnacona et de choisir de venir demander leur passeport ici, pensant possiblement que ce sera moins achalandé.
Bien, écoutez, des retombées économiques, je ne sais pas, mais maintenant, ce que ça fait, c'est que ça positionne Trois-Rivières comme étant un lieu de prédilection dans un paquet de secteurs, puis aussi pour avoir droit à son passeport.
C'est une bonne nouvelle pour la région. Les citoyens de Trois-Rivières vont arrêter de devoir aller à Montréal et à Québec pour obtenir leur passeport.
Puis autrement, vous déplorez de ne pas avoir été invité. Pourquoi?
Bien, écoutez, premièrement, c'est qu'il faut voir que ce problème est arrivé à cause d'un manque de planification de Service Canada. Donc, on a pris la relève de Service Canada, puis on l'a fait pour 200 citoyens de Trois-Rivières qui ont reçu leur passeport avec notre aide du bureau de circonscription. C'est sûr que quand un ministre visite une circonscription, généralement pour une annonce, là, il y a une courtoisie d'aviser ou d'inviter le député. Et dans ce coup-ci, on l'a appris dans les médias.
Sauver du temps, c'est de l'argent.
Quand on peut avoir le service à proximité, c'est toujours plus facile.
C'est une très bonne nouvelle.
À Sherbrooke, vous n'avez pas encore ce service-là. Est-ce que vous souhaitez que ça s'en vienne?
Bien, c'est sûr. Bien, c'est sûr. Ça serait l'idéal. Au lieu d'aller à Montréal, bien, se présenter à Québec.
Donc, la ministre Gould se fait rassurante. Il sera possible d'obtenir son passeport à Trois-Rivières dans les 10 jours ouvrables. Toutefois, pour les demandes urgentes, on devrait quand même se présenter à Montréal ou encore à Québec.
Alors, ce soir, c'est Étienne qui sera à la barre du 22h. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, bonsoir.
Donc, est-ce qu'il va y avoir un débat sur l'environnement lorsque les élections vont être déclenchées?
Bien, c'est une bonne question. On le sait pas. On le sait pas. Il y a Québec solidaire et son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a exigé la chose et qui exige que François Legault participe à un débat de genre, mais il a refusé par le passé. Il ne participe pas non plus à un débat jeunesse de l'Institut du Nouveau Monde vendredi. Donc, ça fait parler. L'opposition voudrait donc un débat sur l'environnement, mais on verra si ça va se produire. Parce que le premier ministre, pour l'instant, refuse de participer à un débat de genre.
Effectivement. Puis là, on va changer complètement de sujet parce que c'est un peu retour vers le futur, retour dans notre enfance, peut-être. Oui. Zellers.
Oui, Zellers.
Qui pourrait faire son retour.
Qui serait de retour en ligne, c'est ce qu'a annoncé la compagnie Labbé du Son, mais également une présence physique dans certains de ses magasins Labbé. Ça s'inscrit un peu, ce retour-là, dans le contexte d'inflation. Zellers, il y avait des produits à bas prix, et donc Labbé essaie de ramener ça pour un peu les consommateurs. Mais pour l'instant, on ne nous dit pas que les restaurants Zellers, qui étaient très populaires, reviendront.
Ben non, effectivement, puis on va pouvoir te suivre ce soir au fil 22h. Merci beaucoup,
Étienne.
Merci
beaucoup.
Alors voilà, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain dès 17h30. Bonne soirée.